Ouvrons nos Bibles. Et j'ose encore vous poser la question ce matin, est-ce que vous avez vos Bibles? Montrez-moi vos B-I-B-L-E. Oh là là, la petite Iliana me regarde avec des gros yeux. C'est tellement important d'avoir le livre entre les mains. Il est tellement précieux. Et c'est par lui, eh bien, que nous avons découvert la grandeur de notre Seigneur et son amour surtout, qui nous a bouleversés, qui nous a changés. Ce matin, je voudrais eh bien, partager un thème dont on ne parle pas souvent dans le milieu évangélique. J'aimerais m'entretenir avec vous sur la simplicité de cœur, sur le fait d'être simple de cœur. Alors c'est vrai, quand on regarde notre société, c'est difficile hein, d'être simple dans une société de plus en plus compliquée. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Pourtant, mes amis, Dieu nous invite à vivre notre vie chrétienne en toute simplicité de cœur. Et c'est sur ça que j'aimerais partager avec vous ce matin. Dans la Bible, ce mot, le mot « simple », on le retrouve passablement et il est employé dans deux sens différents et même diamétralement opposés. Il y a une simplicité, on va dire, négative et puis il y a aussi une simplicité positive. Je vous propose peut-être de voir dans un premier temps ce que c'est que eh bien, d'être simple dans le sens négatif du terme. L'homme simple, c'est ni plus ni moins, dans le sens négatif du terme, bien sûr, quelqu'un ou quelqu'une qui manque de bon sens, une personne qui manque d'intelligence. C'est par conséquent quelqu'un qui va facilement se laisser tromper. Et c'est ce que nous dit eh bien, ce premier verset que je vous propose de lire avec moi, Proverbes chapitre 14 et le verset 15. Prenez des stylos, prenez des notes, parce que je vais vous donner quand même passablement quelques versets. Nous lisons ensemble Proverbes chapitre 14, verset 15. Je vous laisse le temps de chercher et de trouver. Proverbes chapitre 14, verset 15. L'homme simple croit tout ce qu'on dit, mais l'homme prudent est attentif à ses pas. Donc finalement, l'homme simple, dans le sens négatif du terme, est une personne qui est, on va dire, crédule. Une personne qui croit tout ce que va lui dire le premier venu. Et vous comprenez bien que cette attitude, elle est plus que dangereuse. Parce qu'elle peut eh bien, nous faire tomber dans des choses qui sont quelquefois farfelues et même insensées. Et juste regardez toujours, si vous avez votre page sur chapitre 14, trois versets plus bas, Proverbes chapitre 14 et le verset 18, regardez ce qu'il est dit toujours concernant l'homme simple. Proverbes chapitre 14 et le verset 18, ma sœur, est-ce que tu l'as ? Nous l'avons, puisque nous avons nos Bibles. Proverbes chapitre 14, verset 18, juste la première partie de ce verset. Les simples ont en partage la folie, et les hommes prudents se font de la science une couronne. Mais ce qu'on retient, c'est les simples ont en partage eh bien, la folie. C'est ainsi qu'on constate que certains croyants, mal affermis dans la foi, il faut le dire, se sont mis à croire ou même à pratiquer eh bien, des choses qui ne sont pas du tout scriptuaires, c'est-à-dire qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Et il y aurait tellement d'exemples à vous donner. Il y a certains chrétiens, par exemple, qui eh bien, ont à cœur de pouvoir revenir sur l'Ancien Testament et se replonger dans la loi judaïque. Ce que Dieu eh bien, n'a pas demandé, puisque de toute façon, nous ne sommes pas juifs. Nous sommes issus eh bien, des gentils. Et nous avons avant tout été sauvés, non pas par la loi, mais par la grâce. Et on peut constater même qu'il n'y a rien de nouveau sous le ciel, parce que même du temps de l'apôtre Paul, il y avait déjà ce problème avec les chrétiens qui se trouvaient à Galate, qui se sont laissés influencer par eh bien, des entre autres des pharisiens qui les encourageaient à pouvoir pratiquer ce qui se faisait eh bien, au travers de la loi mosaïque. C'est ainsi que certains eh bien, s'abstiennent de certaines nourritures, ils observent les jours et compagnie. Frères et sœurs, que vous observiez les jours, c'est une chose, mais celui qui eh bien, les considère tous égaux, il le fait également pour Dieu. Et une autre dimension eh bien, à laquelle nous sommes appelés, nous sommes dans la dispensation de la grâce. Et c'est d'ailleurs l'apôtre Paul qui va dire, ne le cherchez pas, dans Galates chapitre 3, « Ô Galates, dépourvu de sens, qui vous a fasciné ?» Et de plus en plus, et on l'a entendu au travers du don spirituel, on sera de plus en plus séduit. Il y aura des semblants d'évangile. Et comme je disais vendredi soir, eh bien, on avancera parallèlement eh bien, au chemin étroit qui est Jésus-Christ, mais on ne sera pas dans le chemin. Et ce qui est important pour nous, c'est d'être dans le chemin. Et pour être dans le chemin, bien sûr, il nous faut plonger constamment nos regards dans la parole de Dieu. D'autres personnes, pour donner un autre exemple, ont oublié qu'ils font partie intégrante d'un corps spirituel, le corps de Christ. Et ils ont décidé, du jour au lendemain, comme cela, de vivre leur vie chrétienne, eh bien, séparés de tous, isolés, seuls avec Internet ou leur télé. Moi, je vis ma vie chrétienne en solo. Attention, frères et sœurs, il y aura tellement de dérives. Et c'est vrai que le diable s'est déchaîné. Il viendra d'une manière subtile. Je regardais encore ces dérives. À un moment donné, quelqu'un, un prédicateur qui était en train de prêcher, puis les billets de banque qui tombaient, soi-disant, donc depuis le plafond. Réel. Regardez tout ce qui se passe. Le diable viendra avec toutes sortes de séductions. Parce que notre richesse, elle n'est pas matérielle. Elle est avant tout spirituelle. Et vous êtes heureux et vous êtes riche ce matin si vous avez Jésus-Christ dans votre cœur, dans votre vie. On a besoin de discernement. On a besoin de ne pas être des hommes simples dans le mauvais sens du terme. On a besoin plus que jamais de pouvoir avoir du discernement et être avisé. Jean a dit, bien-aimé, ne vous fiez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Alors vous l'avez compris, la simplicité dans le sens négatif du terme est quelque chose que nous devons impérativement combattre dans nos vies. Et pour cela, Dieu nous a laissé, bien sûr, qu'est-ce qu'il nous a laissé ? Sa parole. Et on y revient. C'est ce livre dans lequel nous devons plonger le regard pour être plus que jamais affermis. C'est le psalmiste au psaume 119 qui va dire au verset 130 « La révélation de tes paroles est claire et elle donne de l'intelligence au simple. » Tu n'as pas beaucoup de connaissances. Tu peux si facilement te laisser balloter. Mon frère, ma sœur, mets-toi à étudier cette parole, à la méditer, tu vas voir. Comment tu seras affermi. Et puis on pourra te raconter avec les plus belles phrases du monde de belles choses qui ressemblent à l'évangile mais qui n'est pas l'évangile. Mais tu resteras inébranlable sur le rocher qu'est Jésus-Christ. Salomon, l'homme le plus sage au monde, a écrit d'ailleurs le livre des Proverbes pour une des raisons suivantes. C'est pour justement donner de l'intelligence aux simples. Il dit dans Proverbes chapitre 1, verset 1 à 4, il donne la raison pour laquelle il a écrit le livre des Proverbes. Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël, pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture, et le verset 4 qui nous intéresse, pour donner aux simples du discernement, au jeune homme de la connaissance et de la réflexion. Et on a besoin, en ce 21e siècle, frères et sœurs, j'insiste, du discernement, parce que le diable, il vient, il se déguise en ange de lumière, mais on veut le dévoiler dans le nom de Jésus-Christ et savoir dire comme Jésus lui-même, il est écrit. Quand on l'a entendu au travers du don spirituel, le diable est venu tenter le Seigneur Jésus. La seule réponse du Seigneur, c'était de brandir l'épée de l'esprit qui est la parole et savoir répondre à l'ennemi, c'est lui dire, il est aussi écrit. Amen. Que Dieu soit béni. On va laisser là la simplicité, négative. Et voyons maintenant peut-être la simplicité, cette fois-ci, celle qui est positive, celle qui nous intéresse. Car je l'ai dit, Dieu nous invite à être des hommes et des femmes qui sont simples de cœur. Amen ou pas amen ? On va y arriver, ne vous inquiétez pas. Un peu comme nos frères et nos sœurs, les premiers disciples des premiers siècles, la première église naissante, celle de Jérusalem, où il nous est dit dans Actes chapitre 2 et le verset 46, la chose suivante, on peut le lire ensemble, Actes chapitre 2, verset 46. Ils, nos frères et nos sœurs, les membres de l'église de Jérusalem, ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et... j'entends pas, hein. Avec joie et... Tellement simple là, à la fin du verset, qu'on ne fait pas attention. Dieu m'a mis ça à cœur ce matin. Qu'on soit, frères et sœurs, des hommes et des femmes simples. La vie est tellement compliquée. La société est tellement compliquée. Les choses, les codes, les modes... C'est tellement compliqué tout ça. Et Dieu nous demande, devant lui, de pouvoir revenir à cette simplicité. Nous avons besoin de vivre cette simplicité de cœur tout le long de notre marche chrétienne. Alors la question, bien sûr, est la suivante. En quoi consiste cette simplicité? J'ai pour vous trois réponses. Trois réponses, la liste n'est pas exhaustive, mais nous allons juste nous arrêter sur trois réponses. La première, comment puis-je être simple? Comment puis-je vivre cette simplicité à laquelle Dieu m'appelle? La simplicité de cœur consiste, premièrement, à être nous-mêmes. Et lorsqu'on choisit d'être nous-mêmes, quelque part, on choisit de ne pas être ce que nous ne sommes pas. Car passer pour ce que nous ne sommes pas, c'est quelque part ne pas accepter ce que nous sommes réellement. Amen ou pas amen? C'est aussi peut-être vouloir cacher, peut-être quelques complexes qui pourraient nous caractériser, quelques faiblesses, quelques blessures qui ne sont pas encore guéries, car même si eh bien, nous sommes sauvés depuis bien des années, Dieu seul sait tout le travail de guérison qu'il a besoin d'opérer encore dans nos vies, dans notre âme, dans notre psychique, dans notre esprit. Et quelquefois, on veut paraître ce que nous ne sommes pas, eh bien pour cacher ces quelques blessures ou complexes qui pourraient encore nous faire entrave au plus profond de nous-mêmes. Paraître pour ce que nous ne sommes pas, n'est-ce pas là aussi une forme d'orgueil? Vous savez ce que dit la parole de Dieu concernant l'orgueil? L'orgueil précède la chute, la ruine. Mais l'humilité, eh bien sûr, précède la gloire. Il y a tellement d'exemples de personnes qui se sont pris pour ce qu'ils n'étaient pas au final et qui ont manqué cette simplicité en Christ. Ils sont passés à côté de ce que le Seigneur les appelait à vivre. Un exemple parmi tant d'autres, c'est celui de Teudas. Est-ce que vous connaissez Teudas dans la Bible? Regardez avec moi, Actes chapitre 5, juste le verset 36. Je vais vous le lire, tiens, dans la version Parole Vivante. Vous l'avez sur l'écran dans la version Louis II. Je vais vous lire dans la version Parole Vivante. Il nous est dit la chose suivante. Rappelez-vous, il y a quelque temps, on a vu paraître un certain Teudas qui se donnait pour un personnage important. Il se donnait pour quelque chose ou pour un personnage important. Il a entraîné quelques 400 hommes à sa suite, mais une fois qu'il fut tué, tous ceux qui s'étaient ralliés à lui furent dispersés et l'on n'entendit plus parler de ce mouvement. Amen. Ce verset, il est très court, mais il en dit long sur cet homme, un exemple parmi tant d'autres qui se prenait pour ce qu'il n'était pas et qui même dans sa folie entraîna derrière lui 400 hommes. Mais vous avez découvert au travers de ce verset aussi quelle a été sa fin. La vérité peut-être à retenir ce matin, c'est qu'au final, nous n'avons rien à prouver à personne. Amen ou pas amen? On n'a rien à prouver, ni à Dieu, ni aux hommes, frères et sœurs. On n'a rien à prouver à Dieu parce que de toute façon, il nous connaît. Il connaît même nos défauts. Et ça ne l'empêche pas de nous aimer d'un amour qu'on peut qualifier d'éternel. Il nous aime, point c'est tout. Alors les défauts, ne vous inquiétez pas, dans son amour, il va chaque jour les rectifier, il va faire ce qu'il y a lieu de faire pour nous rendre irrépréhensibles pour son prochain retour. Mais ça n'empêche pas qu'il nous aime. Et plus que jamais, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à être nous-mêmes. Lorsque nous choisissons d'être nous-mêmes, la vie est tellement plus simple. J'ai dit tout à l'heure, c'est tellement compliqué autour de nous. On a besoin de revenir à cette simplicité et être nous-mêmes. Alors concrètement, que veut dire être soi-même? Je vous ai donné je vais vous donner quelques exemples. Être soi-même, c'est bien sûr être vrai. Les deux riment ensemble. Être soi-même, c'est être naturel. C'est être sans artifice. C'est choisir d'agir sans calcul. C'est aussi d'être la même personne quand on est en présence des autres ou quand on est seul. Il ne faut pas qu'il y ait deux versions, il ne faut pas qu'on soit double. Parce que l'opposé de, le contraire de simple, c'est être double. Un exemple parmi tant d'autres, quand l'apôtre Paul va exhorter les serviteurs à avoir une attitude à l'égard de leur maître, Colossiens chapitre 3, verset 22, on peut le lire ensemble. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres, selon la chair. Non pas seulement sur leurs yeux, comme pour plaire aux hommes. Il y en a, ils font tout. Ils sont différents, ils sont transformés quand ils sont devant eh bien, l'autorité. Devant... Mais quand eh bien, l'autorité a détourné eh bien, le regard ou a tourné le dos, allez, on relâche les voiles et on est eh bien, en mode quoi ? En mode repos. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres, selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Être soi-même, c'est aussi exprimer ses opinions, même si elles sont différentes des autres. On a le droit de dire ce qu'on pense, sans s'inquiéter un petit peu des réactions eh bien, de l'un ou de l'autre. On est tous uniques. Et ma foi, eh bien, il y a 7 milliards... Eh bien, l'individu, et pour un point, on peut avoir 7 milliards d'opinions sans être eh bien, repris ou jugé par le regard des autres. Être soi-même, c'est être en accord avec soi-même à travers ce que l'on dit et enfin ce que l'on fait. Voilà comment nous pouvons eh bien, vivre la simplicité à laquelle Christ nous appelle, en décidant d'être soi-même. Un autre point, et qui, personnellement, me tient à cœur. En quoi consiste le fait d'être simple de cœur, dans le bon sens du terme, bien sûr, comme le Seigneur le désire ? Eh bien, la simplicité de cœur consiste à être accessible à tous. Et là, j'aurais aimé entendre un amen. Un homme simple, c'est une personne qui est accessible à tous. Et il est important que nous puissions être accessibles eh bien, au prochain. Même être quelque part aussi accessible à Dieu. Et cela ne peut se faire que si nous choisissons d'être les uns et les autres simples. Il y a certains chrétiens, peut-être parce qu'ils sont pensant arriver à un certain niveau spirituel, ne veulent pas être accessibles. Ils ne se rendent pas accessibles. Ils se tiennent volontairement à l'écart de toute relation avec les frères et les sœurs. Certains même vont jusqu'à couper les ponts, même avec leur propre famille, au nom de la spiritualité ou d'autres choses, je ne sais pas. Mais je crois qu'en agissant ainsi, eh bien, on fait fausse route. La Bible dit dans Proverbes chapitre 18 et le verset 1, la vérité suivante. Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Il s'irrite contre tout ce qui est sage. Et ma foi, je ne fais pas un jeu de mots, ce verset, eh bien, il est parfaitement sage. Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Et je crois que nous ne sommes pas là ce matin pour chercher ce qui nous plaît, mais ce qui va avant tout plaire à Dieu. On a besoin d'être accessible. On a besoin de comprendre ce que Dieu attend de nos vies, ce qu'il attend de notre vie chrétienne, frères et sœurs. La vérité, c'est que ce style de vie chrétienne qui consiste à s'isoler et ne pas se rendre accessible, eh bien, aux uns ou aux autres, n'est pas la vie véritable à laquelle Jésus nous appelle. D'ailleurs, quand on regarde la vie de Jésus, on voit un autre exemple, un autre modèle que nous sommes appelés à suivre. Jésus, le prince de la vie, il s'est en tout cas, lui, rendu accessible à toute l'humanité. Jésus, le créateur, il est venu habiter parmi les hommes. Il a marché parmi les hommes. Je vais même plus loin, il s'est laissé approcher et même toucher, eh bien... par les hommes, par des pécheurs. Pire, il s'est laissé crucifier sur la croix. Et tout cela, tout simplement parce qu'il nous aimait. Et je me dis quelque part, eh bien, pour être accessible, bien sûr, il faut être simple de cœur. Mais pour être accessible, il faut être imbibé, imprégné de l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Je parle pour moi, ô combien je désirerais davantage ressembler à mon Seigneur Jésus. Et pour ressembler à Jésus, il faut regarder juste comment il a agi parmi les hommes. On a 4 évangiles, 4 regards différents. Il y a certaines personnes qui me disent, mais oh Joël, Matthieu n'est pas exactement ce qui se dit dans Matthieu, n'est pas exactement ce qui se dit dans Marc, etc. Mais vous n'avez pas compris qu'il y a 4 regards différents, 4 personnes qui ont voulu eh bien, décrire la vie de Jésus. Et l'un va mettre l'accent sur quelque chose, l'autre va mettre l'accent sur autre chose, etc. Mais ce qui est important, tout s'imbrique. Et ce qui peut caractériser la personne de Jésus, c'est l'amour qu'il manifestait. Cet amour qui le rendait accessible à tous. Tous avaient accès à la personne de Jésus. Le Romain comme le Samaritain. Le pharisien comme le publicain. Qui encore ? Allez, aidez-moi. La prostituée. le lépreux même, qui était considéré comme eh bien, quelqu'un qui avait été maudit par Dieu. Je vous pose une question, pourquoi les Juifs, à un moment donné, critiquaient Jésus et l'appelaient l'ami des gens de mauvaise vie? Pourquoi eh bien, on disait qu'il était aussi l'ami des publicains? Parce qu'on voyait souvent Jésus avec ces gens. Pour preuve que Jésus était accessible, même auprès des gens de mauvaise vie. Frères et sœurs, ne soyons pas plus sectaires que différentes sectes. Dieu ne nous a jamais appelés à nous isoler et puis à être ses nonnes, etc. Frères et sœurs, on est le sel de la terre. Et le sel va trouver son efficacité lorsqu'il sera au sein de ce monde pour arrêter toute forme de corruption. Jésus était avec les gens de mauvaise vie, mais vous l'avez compris, sans bien sûr se compromettre. Il était avec les gens de mauvaise vie pour trouver les moindres occasions pour communiquer l'amour divin. Et je crois que c'est aussi notre rôle. Et béni soit Dieu pour les amis inconvertis que nous pourrions avoir. Béni soit Dieu, eh bien, qu'on soit en paix et accessible auprès de nos voisins. Moi, quand je vois le voisin qui passe, je ne loupe pas. Hein. Bonjour, bonjour, c'est important. On n'est pas des martiens, on n'est pas des extraterrestres. On est juste des hommes sauvés par grâce. Et quand on a compris ces choses, eh bien, on est accessible à tous. Une remarque qui est pour moi importante. Quand on met en oubli d'où est-ce que Dieu nous a sortis, quand on met en oubli la miséricorde et la grâce que Dieu a manifestée à notre égard, on a tendance à s'oublier soi-même et finalement commencer à regarder les autres de haut. On a pris un petit peu d'embonpoint, on a acquis quelques connaissances spirituelles et on commence à regarder les autres de haut. Et on a oublié d'où est-ce que le Seigneur nous a tirés. On a besoin de pouvoir rester et demeurer humble. Vous savez ce que dit le prophète Michée, on t'a fait connaître, homme, ce qui est bien, ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, mais que tu marches humblement avec ton Dieu. Tant que nous restons humbles et petits à nos yeux, nous resterons également accessibles, non seulement à Dieu, mais aussi à notre prochain. Et personnellement, je veux rester humble à mes yeux. Frères et sœurs, j'espère eh bien, que je ne suis pas rendu eh bien, non accessible à une personne. Je veux eh bien, que chacun d'entre vous ait cette liberté pour venir eh bien, auprès de moi parce que ça a été, c'est le schéma de mon maître, de mon Seigneur. Jésus a été accessible. Et même les enfants venaient vers lui. Et Jésus va reprendre ses propres disciples et va dire « Mais laissez-les venir à moi. Ne les empêchez pas. » Combien je voudrais ressembler à mon Jésus. Et je sais que c'est votre désir aussi, autrement vous ne seriez pas là ce matin. L'apôtre Paul, pour donner un exemple, le grand apôtre Paul, on peut se permettre de le dire, cet homme qui a vu le Seigneur à plusieurs reprises, il va lui-même raconter qu'il a visité le troisième ciel. Est-ce que vous saviez qu'il y avait un troisième ciel? Il a dit, il ne peut pas raconter ce qu'il a vu, c'est des choses ineffables. Un homme qui a été saisi par le Saint-Esprit, qui a porté des révélations et que Pierre va reconnaître comme quelquefois compliqué. Un homme qui a vu la gloire de Dieu puisqu'il a assisté lui-même à plusieurs résurrections. Il a écrit presque la moitié du Nouveau Testament. Un homme eh bien, qu'on appelle et qu'on a surnommé l'apôtre des païens. Ce même homme, le grand apôtre Paul, va dire la chose suivante que je vous propose de lire. 1 Corinthiens chapitre 15. Versets 9 et 10. Et pour moi, quelque part, l'apôtre Paul était, en son temps, un homme qui était accessible. Un homme simple. Simple. Car je suis le moindre des apôtres, va-t-il dire. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi, toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. C'est pas beau ça? Voilà un homme qui se rend humble, un homme qui est empreint d'amour, un homme, oui, qui a vécu des choses extraordinaires, qui peut être démarqué de tant d'autres, mais qui veut toujours eh bien, rester accessible, non seulement à Dieu son maître, mais également à l'égard de son prochain. En quoi consiste encore la simplicité de cœur? Un troisième et dernier point. La simplicité de cœur consiste à croire Dieu simplement. Je n'ai pas trouvé d'autre titre que celui-là. La simplicité de cœur consiste à croire Dieu simplement. Est-ce que vous savez que notre Dieu est un Dieu qui donne à tous, sans reproche, mais aussi avec simplicité, Regardez ce qu'il est écrit. Jacques chapitre 1, le verset 5, on va le lire ensemble. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous, et là on aurait dû le souligner, simplement et sans reproche, et elle lui sera accordée. Et la simplicité de cœur à laquelle Dieu nous appelle nous invite à croire Dieu simplement. Cette même simplicité de cœur qui un jour, rappelez-vous, le jour de votre conversion, vous a donné à recevoir humblement, tranquillement, le beau message de l'Évangile. Et ce message de l'Évangile vous a bouleversé, vous a transformé, vous a fait un bien devenir une nouvelle créature. Dieu nous invite dans notre marche chrétienne à vivre cette simplicité dans la foi pour croire tout simplement Dieu. Seigneur, tu as dit cela ? Alors je te fais confiance. Et je ne permets pas au raisonnement, je ne permets pas, pire encore, à l'incrédulité, le doute, venir s'opposer à ce que tu me dis. Seigneur, je te fais pleinement confiance. Le peuple de Dieu a besoin de retrouver la simplicité de la foi. Un peu comme celle qu'a manifestée un jour une jeune fille, dont je voudrais vous citer l'histoire, une histoire vraie. Je l'ai déjà citée ici en ces lieux, mais peut-être pour quelqu'un qui ne connaîtrait pas cette histoire vraie, je tiens, au travers de cette histoire, vous montrer ce qu'est la simplicité de la foi. La simplicité de cœur qui consiste à croire Dieu simplement. Il n'avait pas plu dans cette région depuis des mois. La terre était sèche et la végétation pauvre. Les agriculteurs étaient très inquiets pour leur récolte. Ils décidèrent de mettre en place une réunion exceptionnelle pour demander à Dieu qu'il envoie de la pluie. Le jour prévu, en fin d'après-midi, alors qu'il faisait encore chaud et que le soleil brillait dans un ciel bleu sans nuages, on vit les paysans de tous les villages environnants se diriger vers l'église. Parmi eux se trouvait une petite fille portant un grand parapluie. « Eh bien, ma fille !» lui dirent quelques-uns avec un sourire parfois amusé, parfois ironique. « Que fais-tu avec ce grand parapluie alors qu'il fait si beau ?»« Regarde, il n'y a pas un nuage dans le ciel !» Et de répondre cette petite avec un cœur simple, avec une foi simple. « Mais nous allons bien à l'église pour demander à Dieu la pluie, n'est-ce pas ? Dieu ne répondrait-il pas ?» rajouta-t-elle. La réunion de prière, à peine terminée, on entendit la chute de grosses gouttes sur le toit, puis la pluie s'intensifia et dura longtemps, de sorte que la petite fille, au grand parapluie, fut la seule à rentrer chez elle sans être trempée. C'est pas beau, ça ? Ouvrons également notre parapluie. Contre le doute, contre l'incrédulité, mes amis. Cette petite fille, son histoire, elle est là pour nous rappeler que Dieu attend que nous puissions être simples. Simples pour croire, simples pour lui faire confiance. Nous a-t-il trompés ? Lui qui n'a point épargné son propre fils, nous abandonnerait-il d'une manière ou d'une autre ? Ne serions-nous pas capables ce matin de choisir de lui faire pleinement confiance comme cette petite fille a fait confiance ? Je ne sais pas, peut-être le parapluie était plus grand qu'elle. On a besoin que notre foi puisse grandir. Recherchons la fraîcheur de la simplicité de la foi que cette jeune fille a su manifester. Elle n'a pas voulu laisser le doute prendre l'avantage sur la foi qu'elle avait en un Dieu si grand. En conclusion, juste rappeler ces trois points. Oui, Dieu désire que nous puissions être les uns les autres, simples de cœur, mais dans le bon sens du terme, on l'a compris. Nous avons tous besoin de vivre cette simplicité de cœur qui consiste premièrement à être soi-même. Puis deuxièmement, qui consiste à être accessible à tous. C'est important afin de pouvoir prodiguer, manifester, déverser sur les autres l'amour que Dieu a mis et a placé sur notre cœur. Et enfin, nous avons tous besoin de revenir à la simplicité de la foi afin de pouvoir vivre une vie chrétienne victorieuse. Frères et sœurs, et on l'a entendu aussi, quand le Seigneur viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre ? Est-ce qu'il trouvera la foi dans nos cœurs ? Cette foi simple, qui consiste à rester ferme, inébranlable sous les promesses de Dieu. Il a dit, je reviendrai et je prendrai mon église. Et parce qu'on a pris ces paroles au sérieux, jour après jour, on veut s'appliquer à pouvoir chercher la face de Dieu, à chercher, eh bien, à préparer nos âmes, nos cœurs à cette merveilleuse rencontre. Le Seigneur, il revient bientôt. On voit les événements qui s'accélèrent, frères et sœurs. Et nous ne voudrions pas être de ceux qui s'enivrent par toutes sortes de choses ou faire la politique de l'autruche. Nous voudrions avoir les yeux ouverts et rester dans un calme surnaturel. Parce que Dieu est avec nous, prions ensemble le Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour la simplicité de cet évangile. Un évangile que même, Seigneur, un enfant peut comprendre. À l'exemple, et Seigneur, mon Dieu, de cette petite fille qui, avec son grand parapluie, avait déjà devancé cette réunion de prière, avait déjà reçu dans son cœur l'exaucement à sa prière. Seigneur, mon Dieu, augmente la foi dans nos cœurs. Bien souvent, nous sommes compliqués. Nous sommes compliqués lorsque nous te demandons, Seigneur, compte de ce que tu nous demandes de faire. Seigneur, mon Dieu, aide-nous à être simples pour obéir à ta voix quand tu nous diriges. Seigneur, dans des chemins même quelquefois qui nous paraissent, Seigneur Père, mon Dieu, incompréhensibles. Seigneur, donne-nous aussi à être accessibles les uns les autres. Je te prie pour l'Église d'Istra afin que nous soyons, non pas, Seigneur, cette famille, Seigneur, uniquement au travers des mots, mais cette famille concrète. Où, Seigneur, nous pouvons trouver accès les uns les autres, que nous puissions tous nous connaître, que nous puissions tous nous apprécier, nous aimer les uns les autres. Je te prie encore que ton amour, tel un phare, puisse, Seigneur Père, éclairer, illuminer, Seigneur, cette ville d'Isra. Je te prie, s'il te plaît, aide-nous à être vrais, naturels, nous-mêmes. Seigneur, quand on est confronté à ton amour, on fait tomber toute forme de masque et on apprend à être nous-mêmes. Seigneur, aide-nous à marcher dans cette simplicité, jour après jour, afin que nous soyons fin prêts lorsque tu reviendras. Bénis mes frères et mes sœurs ce matin, bénis l'église d'Istre, bénis les autres églises encore, Seigneur, de cette ville d'Istre, et qu'ensemble nous puissions, Seigneur, te servir pour la cause, alléluia, du royaume des cieux. Père, merci encore de nous raccompagner les uns les autres et de nous maintenir toujours dans cette simplicité de cœur, simplicité dans la foi, au nom de Jésus. Amen.